Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous célébrons aujourd'hui la dédicace, c'est-à-dire la consécration de la basilique du Saint-Sauveur, qui a depuis été rebaptisée, comme vous le savez sans doute, la basilique Saint-Jean de Latran. Il s'agit de la plus ancienne basilique chrétienne de l'Occident, qui a été érigée sous l'empereur Constantin à partir de 320, et qui est aussi la cathédrale du pape. Elle est appelée pour cette raison mère et tête de toutes les églises du monde. C'est donc une solennité particulièrement éminente et évidemment nous aurons à cœur de prier aujourd'hui pour notre Saint-Père le Pape qui, là encore, à l'heure où nous parlons, célèbre pour sa part cette messe en la basilique Saint-Jean de Latran pour rappeler qu'il est évêque de Rome et qu'il est le souverain pontife, c'est-à-dire qu'il est le pontife des pontifes. Certains, y compris parmi les chrétiens, trouvent très étrange qu'on puisse solenniser la consécration d'un bâtiment. Comme c'est le cas en plusieurs occasions dans l'année, le 29 septembre, par exemple, nous célébrons la dédicace de l'église romaine de Saint-Michel-Archange, la cathédrale du diocèse et l'église paroissiale font également l'objet d'une fête qui est mobile, par définition, puisque tout cela dépend du diocèse et de la paroisse dans lesquelles on se trouve et de la date de consécration respective de l'église cathédrale et de l'église paroissiale. Bref, qu'on célèbre les événements de la vie du Seigneur, qu'on célèbre les événements de la vie de sa Sainte Mère, la naissance au ciel des saints les plus éminents, ça tombe sous le sens. Mais qu'on en vienne à exalter la dédicace d'un bâtiment, voilà qui paraît contradictoire avec la volonté même de notre Seigneur. Quand on lit cette rencontre formidable de Jésus avec la Samaritaine, on découvre dans les paroles du Seigneur, l'heure vient où les hommes n'adoreront plus sur cette montagne ni à Jérusalem. L'heure vient, et elle est déjà advenue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Est-ce qu'il n'y a pas, c'est ce que demande un certain nombre de chrétiens, est-ce qu'il n'y a pas dans ces paroles du Maître une volonté explicite d'en finir enfin avec la dimension matérielle du culte ? Est-ce que ça n'est pas à reléguer aux oubliettes de l'histoire lorsque les hommes, encore mal dégrossis, mais les femmes aussi, rassurez-vous, en étaient encore à asperger le temple de Jérusalem de sang de génisse et que sais-je encore, ou lorsqu'en différentes religions, on exaltait tel ou tel lieu parce qu'il permettait d'entrer en contact avec la divinité. Dans les paroles du Seigneur, et singulièrement celles-ci, adorer le Père en esprit et en vérité, il nous semble pouvoir discerner parfois la caducité du lieu de temple, du bâtiment dans lequel on rend un culte à Dieu. À l'appui de cette thèse, on énumère plusieurs arguments qui, c'est vrai, doivent être pris en compte. La nature, premièrement, la nature de Dieu est exclusivement spirituelle. Lui n'est qu'esprit, il n'a pas de corps, il ne touche pas. Et on croit pouvoir affirmer, du coup, que Dieu, qui est pur esprit, ne saurait se complaire dans des maisons de prière. Il nous semble que Dieu n'a rien à faire, lui qui est pur esprit, dans une maison de prière. Et on trouve encore un deuxième argument. À l'appui de ce spiritualisme de certains de nos frères chrétiens, je veux évidemment parler des évangéliques, mais tout d'abord des réformés, luthériens et calvinistes, qui petit à petit en sont venus à détruire les lieux de culte catholiques ou à critiquer sans cesse toute cette magnificence déployée par l'Église au fil des siècles, on trouve un autre argument, le risque d'idolâtrie. On nous dit que l'homme se laisse facilement capter, facilement impressionné par la beauté des créatures. On nous répète à l'envi que les statues, les tableaux, les icônes, le mobilier liturgique, les vitraux et autres prouesses architecturales des bâtisseurs de cathédrales de toutes les époques exercent sur l'être humain une sorte de fascination, une sorte de pouvoir hypnotique, de telle sorte que celui-ci reste confiné dans la vénération des objets matériels et qu'il oublie de remonter par son esprit et par son cœur surtout, vers celui en l'honneur duquel on a érigé tous ces monuments. Il faut avouer que, dans une certaine mesure, ces arguments portent. Et d'ailleurs, Dieu, dans l'Ancienne Alliance, passe son temps par la bouche de ses prophètes à rappeler que l'homme n'a pas à s'en tenir au temple ou à cette magnificence du culte de l'Ancienne Alliance qui était rendue dans le temple. En permanence, et ça vaut quelques petits déboires aux prophètes, en permanence, les prophètes rappellent, c'est-à-dire Dieu lui-même, que ce qui compte, c'est le culte spirituel. Ce qui compte, c'est le sacrifice du cœur. Ce qui compte, c'est de parler avec son Dieu et de l'écouter. Ce n'est pas premièrement d'offrir de grasses génisses, de sacrifier des bœufs avec des ornements liturgiques magnifiques dans un temple qui était celui de Salomon, c'est-à-dire de toute beauté. Mais il faut tout de même répondre à nos frères chrétiens qui se dévoient un peu par là, méprisant les lieux de culte, que si nous sommes chrétiens, la première chose à faire, c'est de chercher ce qui plaît à la sagesse de Dieu, ce qui plaît à la volonté divine. Or, partout, depuis la première page de l'Ancien Testament jusqu'à la dernière de l'Apocalypse, c'est-à-dire du Nouveau Testament, on trouve Dieu qui veut se faire rendre un culte, et se faire rendre un culte non seulement en esprit, mais qui veut impliquer le corps de ses créatures dans ce culte. Il exige que des lieux lui soient dédiés et ne soient consacrés qu'à lui. C'est d'ailleurs le sens du mot latin « sacer », consacré, « sacer ». « Sacer » veut dire « coupé, mis à part ». On consacre à Dieu, c'est un hommage qu'on lui rend, un lieu dans lequel aucune activité profane n'aura plus lieu désormais, mais qui ne doit servir qu'à la magnificence de son nom et à la célébration de sa gloire. C'est cette volonté de Dieu qui doit primer, et non pas les petits caprices de l'être humain qui voudrait soit se départir de tout lieu de culte, soit au contraire exalter tellement le lieu de culte qu'on en vient à oublier à qui il a été dédié et quelle est sa finalité profonde. Vous voyez que dès l'Ancienne Alliance, Dieu veut ce lieu de culte. Alors, il veut qu'il n'y ait qu'un lieu de culte, le temple de Jérusalem. Pourquoi ? Pour arracher son peuple à cette sorte de d'effervescence des divinités païennes. Vous savez qu'on rendait un culte en Babylone, à Rome, en Grèce ou en Égypte, c'est-à-dire de là où étaient tirés les premiers juifs, on rendait un culte à chaque divinité dans un temple particulier. Afin d'arracher au polythéisme le peuple élu qu'il s'était choisi, Dieu a décidé de ne l'orienter que vers un temple. Et encore, au début, Dieu n'a pas voulu de temple pour qu'il n'y ait pas de confusion possible entre le temple du vrai Dieu et les temples païens. Il s'est contenté d'orienter son peuple vers l'adoration de l'Arche d'Alliance. Et c'est par la volonté du roi David, qui n'a pas pu, comme vous le savez, lui-même instaurer le temple en pierre, mais c'est son fils Salomon qui a eu cette charge, parce que David avait été infidèle à son Dieu, et c'est sur la volonté du roi David que, conformément à la volonté de Dieu en réalité, pour la première fois, un temple est construit et que tout le peuple élu est appelé à ne rendre de culte matériel que dans ce temple. C'est une préparation des cœurs, c'est une pédagogie divine qui oriente le peuple élu, qui focalise le culte du peuple élu sur le seul temple de Jérusalem. Dans un deuxième temps, le Seigneur, qui est Dieu incarné, la vérité tout entière, vient nous apprendre que le temple de Jérusalem est caduc, que le culte qui y est rendu, s'il a été nécessaire pendant des siècles, n'a plus lieu d'être. Que désormais, c'est un culte en esprit et en vérité qui doit être rendu. Comprenons bien ce que cela implique. Ce n'est plus un culte qui doit être rendu dans un lieu unique, mais qui peut être rendu dans plusieurs lieux. Voilà ce que veut dire rendre un culte en esprit et en vérité. Jésus n'abolit pas du tout la nécessité de rendre un culte dans un temple matériel. Il explique à la Samaritaine que désormais, il n'y a plus un seul lieu, mais il y en aura autant que nécessaire sur la face de la planète pour que tous les hommes puissent rendre à Dieu ce culte qui lui est dû. Vous voyez, nous sommes corps et âme, et Dieu ne saurait négliger cela, ne saurait nous demander de nous prendre pour de purs esprits. Nous sommes, comme l'évangile d'aujourd'hui nous le montre, nous ne sommes que de petits hachés. Très très souvent, et nos contemporains particulièrement, ceux qui sont loin de l'Église parce que croyant en Dieu, ils répugnent à entrer dans un sanctuaire, tout cela n'est pas fait pour eux, comprenez-vous, ils sont de purs esprits. Eh bien, à cela, on peut répondre qu'en réalité, l'homme, je le redis, n'est qu'un petit zaché. Il n'est qu'un petit bonhomme, traversé par une tendance certaine au mal, et parfois capable de quelques biens. Et ce zaché-là, pour accéder à son Seigneur, Jésus donc, qui passe dans le village, est obligé de monter sur un arbre. Je crois qu'on a là la symbolique même de la liturgie catholique. La liturgie catholique est cet arbre qui pousse au fil des siècles sereinement, avec la sève même du Saint-Esprit, et qui nous permet de nous élever un peu et de voir Jésus, d'accéder à Jésus. Cet arbre-là, croyez-le bien, et Zachée en atteste, n'est pas seulement spirituel, il est bien matériel. S'il n'était pas fait de bois, Zachée n'aurait pas pu monter dessus pour voir son Seigneur. De la même manière, nous ne pouvons pas nous contenter d'un simple culte spirituel au fond de notre cœur, qui, pour essentiel qu'il est insuffisant. Il nous faut monter sur cet arbre qui pousse au fil des siècles d'une tranquille accumulation de la tradition catholique. Je voudrais insister sur le pouvoir qu'exerce la liturgie très incarnée avec de l'encens, des cierges, avec des icônes ou des représentations, des statues. Ce pouvoir-là, nous pouvons en avoir une petite idée lorsque nous relisons un témoignage qui a été rendu par les émissaires du prince de Kiev. Au 10e siècle, en 988, le prince de Kiev, qui était un prince païen, mais un prince honnête homme, aurait-on dit quelques siècles plus tard, décida d'envoyer, pour savoir quelle religion embrasser, il recherchait la vérité, cet homme-là, et sans le savoir, il était déjà mû par le Saint-Esprit, il envoya des émissaires à travers l'Europe et à travers le pourtour méditerranéen pour savoir quelle était la vraie religion. On entra dans les temples païens germaniques, on entra dans les temples de la Rome païenne, on entra dans les temples grecs et on poussa la porte de la basilique Sainte-Sophie de Constantinople. Je cite la relation que font les émissaires de ce prince. Nous ne savions plus si nous étions au ciel ou sur la terre. Nous ne pouvions décrire ce que nous avons vu. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que Dieu était là parmi les hommes. Nous ne pourrons jamais oublier cette beauté. Voyez la puissance de la liturgie orthodoxe en l'occurrence, mais cette liturgie existe dans le giron de l'Église catholique. D'abord, à l'époque, il s'agissait de l'Église indivise, je vous le rappelle. Et puis, cette liturgie est toujours célébrée par nos frères chrétiens orientaux, grecs catholiques, par exemple, qui ont exactement la même liturgie que dans la basilique de Constantinople. À l'époque, plus de 90 prêtres, plus de 50 diacres, et je passe tout l'aréopage qui s'ensuit, célébraient la divine liturgie en la basilique Sainte-Sophie de Constantinople. Voyez comme l'effet produit sur des hommes de bonne volonté a été violent, a été magnifique. Et l'on nous dit aujourd'hui qu'il faut se rabaisser au niveau du commun, qu'il faut savoir parler aux hommes de notre temps, bien sûr, certes, dans la prédication, bien sûr, certes, dans la charité que nous exerçons sur le parvis de l'Église ou par cette chaleur que nous devons dégager à l'égard de nos confrères et qui est bien contemporaine, elle est bien d'aujourd'hui, certes, mais quant à la liturgie, je crois que nous tenons là un argument pour qu'elle n'évolue pas sans cesse et surtout qu'elle ne s'horizontalise pas. Les hommes en entrant et les femmes en entrant dans un sanctuaire doivent voir, doivent sentir, doivent entendre la présence transcendante et infiniment bonne, c'est vrai, mais transcendante de Dieu. C'est, je crois, ce qui doit nous animer, mes bien chers frères, lorsque nous-mêmes nous célébrons la liturgie, parce qu'il serait fallacieux de considérer qu'il y a d'un côté le sanctuaire, avec le prêtre, ses servants, et puis au fond de l'assemblée, la scola, et que le reste peut se contenter de consommer gentiment, en marmonnant quelques chants de temps à autre, parce que tout de même ça nous rappelle quelque chose, et puis c'est bien enlevé, on peut y aller, ou en donnant quelques commentaires à la sortie sur la qualité de la liturgie. Nous tous prenons part à la divine liturgie. Nous sommes un reflet de la liturgie céleste. Or, dans la liturgie céleste, chacun est à sa place, rien que sa place, mais toute sa place. Je crois que nous devrions reprendre conscience à nouveau de l'importance de notre rôle à chacun dans la liturgie. Ce n'est que lorsque le peuple de Dieu célèbre la liturgie, le corps mystique de Jésus-Christ, et chacun de ses membres est à sa place, chante quand il le faut, se met debout lorsqu'il le faut, s'assoit lorsqu'il le faut et se met à genoux lorsqu'il le faut, ni plus ni moins, ce n'est que dans ces conditions-là qu'alors nous porterons le reflet du ciel en nous et que seront bouleversés de la même manière que ces païens l'ont été, nos païens de contemporains. Eh bien, chers frères, je vous laisse méditer sur ce mystère somptueux de la liturgie et sur les implications que je viens de vous dire a sur votre propre vie liturgique. À commencer par la ponctualité, bien sûr, mais désormais c'est un fait acquis, à être présent dans le sanctuaire. 5 minutes avant la messe, je constate que la nef est vide. Je m'en étonne. Je crois que les anges, eux, sont présents lorsqu'il le faut pour honorer leur Dieu. Voilà, mes frères, ce que je voulais vous dire en toute charité fraternelle ou pastorale. Voilà, si nous voulons, encore une fois, non seulement nous nourrir, mais convertir ces gens qui vont, dans quelques semaines peut-être, pousser la porte par curiosité, et si nous voulons qu'ils aient les mêmes exclamations que ces envoyés du prince de Kiev, alors à l'œuvre, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.